Bonjour, bonjour, ce matin, bien, on va se retrouver d'abord avec ceux qui participent à cette émission, c'est-à-dire les techniciens, parce qu'aujourd'hui j'ai de la chance. Bonjour Christian.
Bonjour Natacha.
Bonjour Clément. Et bonjour Gianni, une voix aussi de la radio, tout le monde est là ce matin sur le pont, ça fait plaisir.
Vous êtes bien entouré.
Oui, oui, mais toujours, vous savez, à la radio c'est plein de gens sympathiques.
Ah oui. C'est vrai.
Alors le bonheur, c'est la capacité à trouver la joie en tout. Dixit, Monsieur Alexandre Jolien. Monsieur Alexandre Jolien, il a écrit un livre et je vous l'amènerai dans peu de temps. Voilà. Et nous, ben, on va retrouver des voix. Alors je vous ai cherché des voix pour faire plaisir parce que je sais par oui dire que dans les EHPAD, nous sommes pas mal écoutés.
Ah, très bien.
Parce que nous avons un journaliste qui va...
Oui, bien sûr,
Fabien. Fabien. Et puis donc, j'ai cherché quelque chose qui pourrait leur faire plaisir. Et quand ils vont entendre, ils vont dire « Ah oui, ça c'était quand j'étais jeune !» Voilà. Allez, on y va. Aujourd'hui, on va parler des barytons. C'est vrai qu'on a toujours tendance, n'est-ce pas Christian, à dire les castrats.
Oui, oui. De notre époque.
Notre époque. Les ténors, bien sûr. Alors bon, on va choisir cela parce que c'est rare qu'on parle de baryton.
C'est vrai, hein? C'est vrai, on parle surtout des ténors.
Des ténors, ou alors carrément ceux de la musique ancienne, beaucoup plus ancienne, mais oui. Bon, voilà. Alors je vais les ressusciter un petit peu aujourd'hui, allez on y va. Lorsque le mot baryton désigne une voix de soliste, il désigne le type de voix masculine dont la tessiture est à mi-chemin entre celle du ténor et de la basse. Elle est la tessiture de voix masculine la plus répandue. Le terme n'est apparu qu'à la fin du XVIIIe siècle pour qualifier une catégorie vocale. Antérieure à ce type de voix était appelé concordant ou basse taille. Le terme de baryténor est utilisé pour désigner un baryton aigu ou un ténor au registre grave. Il existe bien sûr plusieurs catégories de barytons. Qui sont différents, bien sûr, par le caractère des personnages qu'ils interprètent, la vaillance de la voix et la richesse du timbre. La constante, bien sûr, restant la tessiture qui s'étend le plus souvent du sol 1 au sol 3. Les barytons à la voix la moins étendue sont les barytons lyriques et barytons légers. Ils font partie des barytons les plus répandus. Eh bien, plutôt que d'entamer les barytons légers, dont je vais vous parler après, ben, on va écouter. Alors, on a choisi ce matin, allez, quelqu'un qui va sûrement parler à beaucoup de gens, c'est Monsieur Gabriel Baquier, avec la chanson de la puce.
Sa propre fille, le brave homme l'aimait. Et l'histoire l'assure par son tailleur. Un jour, lui qui prendra dans une lune pour faire la vie de cour. L'insecte plein de joie, et qui se vit paré, d'orbe velours de soie et de croix décorée. Les deux promesses, ses frères et ses sœurs, par ordre du prince, le père grand seigneur. Mais ce qui fut bien pire, c'est que les jaunes tournent, sans en oser rien dire, se grattaient tout le monde. Plus politique, plaignons leur destin.
À Alors, on va entamer les classifications de baryton. On va commencer par le léger. Le baryton léger ou baryton martin, parfois appelé aussi baryton comme la lumière, alors allez donc savoir, possède la tessiture la plus élevée, souvent la plus claire, telle que Jean-Blaise Martin, chanteur français du XVIIIe siècle ayant donné son nom à la catégorie. La plus agile, mais aussi la moins large dramatiquement de toutes les familles de baryton. Le volume de la voix est relativement plus faible que les tessitures d'autres barytons. Hein, d'autres tessitures de barytons autres, si vous voulez. On va changer la phrase. Alors, puisque tout à l'heure, on parlait de M. Jean-Blaise Martin, je vais vous en parler un petit peu, puisqu'ils sont, c'est un des premiers répertoriés. Il est né en 1768 à Paris, il est mort en 1837. Ce baryton a donné son nom à un type de voix particulière au répertoire français, le baryton martin ou baryton aigu, proche du ténor. Doté d'une voix légère, joliment timbrée, allant de la voix de tête jusqu'au si aigu et d'une flexibilité singulière. Martin se permettait d'assumer aussi bien des rôles dans les registres plus graves, car sa tessiture couvrait près de 3 octaves. Tout ça, eh bien, c'est pour vous dire que c'est une chose très intéressante, parce que sa facilité prodigieuse dans ses transitions de la gravité de la basse la plus prononcée à la légèreté et le timbre argentin de du haute contre la plus élevée. Alors ce monsieur, il a beaucoup marqué son temps, et puis il faut dire qu'en 1894, il rentre à la Salle Favart, où il devient la coqueluche des amateurs de chant, comme les musiciens et librettistes qui le réclament bien sûr en exclusivité. Eh bien, il a eu une vie fort intéressante. Et après la mort d'un de ses amis de Garin en 1823, il prend ses distances avec la scène et ne reviendra qu'en 1833, après une douzaine de représentations des Souvenirs de la Fleur, opéra composé pour lui par Jacques Fromental à Lévis. Voilà. Et en 1836, accablé par la mort d'une de ses filles et souffrant de troubles gastriques, il rejoint le Rhône, où son vieil ami Elie Viaud s'était retiré en 1813, chez lequel il meurt un mois plus tard. Son corps sera rapporté à Paris et inhumé au cimetière du Père-Lachaise. Donc si vous avez l'occasion d'aller vous promener là-bas, parce que c'est un beau jardin, un grand jardin, eh bien, vous pourrez aller le saluer. Nous, on fait une petite pause musicale avec le deuxième. Alors, le deuxième, il va parler comme il a parlé à ma grand-mère, hein, qu'il écoutait souvent, vous savez, avec le... Comment ça s'appelle? Elle a gravé avec l'aiguille, là. Comment ça s'appelait? Le gramophone, ou voilà, les 78 tours. Ça faisait crac, 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 crac. Et souvent, ma grand-mère, qui était d'origine italienne, elle écoutait Alain Vanzo.
Ah bah oui, voilà. On l'écoute dans Le Roi... Le Roi 10.
Alors, bien sûr, il y a le baryton lyrique. Il s'agit de voix relativement claires et puissantes. Alors, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'il chante en vérité? Parce que, bien sûr, la communication n'était pas celle d'aujourd'hui. Donc, je vais vous dire quelques rôles qui étaient joués par justement ces barytons lyriques. Vous avez le comte de Alma Viva dans Le Mariage de Figaro. Il y a beaucoup de Mozart, hein, Christian. Beaucoup de barytons qui chantent,
oui,
du Mozart.
Oui, Verdi, on en a beaucoup.
Oui, aussi. Alors, il y a aussi Don Giovanni, bien sûr, Papageno dans La Flûte Enchantée. Alors, il y a du Puccini, il y a du Rossini qui commence à apparaître, avec, par exemple, Marcello dans La Bohème. Ce sont tout ça, et Le Figaro, bien sûr, du Barbier de Séville, de Monsieur Rossini. Exemple de barytons qui ont interprété tous ces personnages, voilà. Il n'existait pas de terme particulier pour désigner le baryton central, l'appellation du baryton caractère étant peu utilisée. Cette catégorie a toutefois grandement influencé Verdi dans Don Carlo, et puis le comte de la Luna dans Il Trovatore, bien sûr. Et puis bien sûr Wagner, bien aussi, qui a été interprété. Alors avant de parler du baryton dramatique, peut-être on pourrait faire une autre petite pause musicale avec un aussi qui a beaucoup charmé nos anciens. C'est Monsieur Tito Gobbi. Alors voilà, on va pouvoir l'écouter avec un morceau de Rigoletto de Verdi.
Marullo, signore, dimmi tu dove l'hanno nascosta. E là non è vero, e là non è vero, e là non è vero.
Le baryton dramatique. Alors le baryton dramatique, lui, il possède une voix riche et un timbre plus sombre que le baryton lyrique. Cette catégorie correspond approximativement dans le système allemand qu'on va retrouver d'ailleurs avec Wagner. Alors quelques rôles de baryton pour vous les situer. Il y a bien sûr dans Nabucco, hein, de Giuseppe Verdi, dans Othello aussi, dans le rôle d'Escamillo dans Carmen de Bizet, et puis aussi dans Scarpia, dans La Tosca de Puccini. Alors dans ce rôle dramatique, eh bien après il y en a d'autres bien sûr, il y a le rôle d'Escamillo dans Carmen, oh, celui-là alors il est typique, vraiment très typique d'une tessiture problématique, tant pour les basses que les barytons, en raison d'un aigu vaillant et d'un bas médium, soutenu, vous savez, par un qu'on connaît aussi beaucoup, mais qui est plus récent, M. José Van Damme en fut un grand interprète. Le baryton Verdi, eh bien, le baryton Verdi est une variété du précédent, reconnaissable par sa vaillance, comme son nom l'indique. Il est particulièrement présent dans les opéras de Giuseppe Verdi. Il nécessite une aisance et une endurance dans le registre haut de la tessiture. Alors là, dans les rôles, ben, on va retrouver bien sûr beaucoup d'Italiens. On va retrouver Carlo dans Hernani, dont Carlo di Vargas dans La Forza del Destino. On en retrouve aussi Macbeth dans Macbeth. On en retrouve Rigoletto dans Rigoletto. Voilà, tout ça c'est très intéressant parce que c'est pas tout à fait les mêmes choses que l'on entend. Après, vous avez aussi le baryton basse. Le baryton basse est un baryton spécifique à certains rôles, mais des rôles d'opéra. Sa tessiture plus grave que celle du baryton, mais plus large, peut couvrir ceux d'une basse et d'un baryton habituel. Cet emploi, généralement associé à des personnages divins, puissants ou autoritaires. Il peut jouer les rôles de baryton ou d'opéra bouffe dans certains opéras. Alors, on a choisi pour vous, tiens, Boris Godounov de Moussorgski, parce que c'est quelque chose qui rentre, vous voyez, on passe un petit peu des Italiens, ça s'agrandit. On a aussi Méphistophélès de Faust, de Monsieur Gounod, dont Alfonso avec Mozart, bien sûr, Mozart est toujours là avec les Noces de Figaro. Et alors, donc, on va les barytons basses, comme Walter Berry, aussi interpréter des rôles de barytons très forts. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près tout le tour des barytons que vous connaissez peut-être les mieux. Les tout récents, ma foi, je ne les ai pas invités à notre émission aujourd'hui, mais ça fera l'objet. Tiens, je vous ramènerai les ténors la prochaine fois. Ou bien les voix de haute contre que j'aime beaucoup parce que ça nous ramène un peu au Moyen-Âge aussi. Voilà, eh bien, je crois qu'on a fait le tour, Christian.
Oui.
On va écouter le dernier morceau de votre choix, et puis on se retrouvera la semaine prochaine. Non, mais la semaine prochaine, on va trompeter.
Oui, c'est ça. Ah. Alors là, on va terminer avec un baryton basse actuel. C'est Brian Terfel. On l'écoute dans Mozart, Don Giovanni, l'air du catalogue de Leporello.
Eh bien, nous, on vous dit au revoir. On remercie Christian et Clément. Et puis, on vous dit à très bientôt. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.
Catalogo è questo, delle belle che amò il padron mio, un catalogo è lì che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Germania 231, 100 in Francia e in Turchia, 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1.300, fan fra queste contadine, cameriere cittadine, fan contesse e baronesse, Marchesani, principesse, e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia, 640, in Germania, 231, 100 in Francia, in Turchia, 91, ma in Spagna. Son già 1.300, ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesane, principesse, e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, ogni forma, d'ogni età, ogni forma, d'ogni età. La gente
d'inverno la grassotta vuol d'estate l'anna groppa e la grande maestosa e la grande la piccina, 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 la mia orvezzosa, la mia orvezzosa, la mia orvezzosa. Delle vecchie fa conquista per piacere. A passion predominante e la giovin principiante non si picca se sia ricca, se sia brutta, se sia bella, se sia ricca, brutta, se sia bella. Voi sapete quel che fa.